part de mettre ça. Je ne sais pas si la question de l'eau vous intéresse. Mais une chose est sûre et certaine, c'est qu'elle vous intéressera de gré ou de force. Vous aurez, en 2050, la date où je me place, vous serez en fin de carrière. Vous aurez de nombreux enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants. Vous aurez fait des carrières plus ou moins brillantes. C'est très difficile d'imaginer ça à votre âge, mais c'est pourtant ce qui vous attend. Il faut savoir qu'on est responsable, dès maintenant, de ce qui se passera dans un avenir qui semble lointain et qui est pourtant terriblement proche. Ceci dit, et je dis ça uniquement pour vous embêter, vous inquiéter, alors personne ne rit si je me trompe là-dedans, parce que ces choses mécaniques me dépassent un peu. La preuve, essayons de rester correct, de ne pas dire de mots grossiers. Vous voyez, monsieur, vous m'avez dit que ça marchait comme ça, ben ça ne marche pas avec moi. Ah ben non, ça, c'est exagéré. C'était à l'envers. Bon. Alors vous voyez que je ne démarque pas sur l'eau, je démarque sur la question essentielle, c'est-à-dire combien serons-nous en 2050 ? Bien, il faut voir qu'en 1800, nous étions 1 milliard, en 1930, 2 milliards, donc vous voyez, 130 ans pour doubler, mais après, de 30 à 74, ça ne fait pas beaucoup de temps, mais on double. Alors, on en est maintenant, on peut se demander quand on va arriver normalement pour arriver dans 2015 à 8 milliards d'habitants sur la Terre, et on espère arriver à 9 milliards d'habitants. Alors, pourquoi 9 milliards ? Si on poursuivait la courbe qu'indique 1 milliard, 2 milliards, 4, 6, 7, on devrait arriver à 12 milliards. Mais on constate que, non pas grâce au sida, mais grâce à des mesures d'éducation des filles en particulier, les taux de fécondité sont en train de baisser dans l'ensemble du monde. C'est très net dans tous les pays pratiquement. Alors on espère donc que nous ne serons que 9 milliards d'habitants. Alors j'ai marqué référence à Malthus. Vous connaissez Malthus ? Ça vous dit quelque chose ? Ils ne connaissent pas Malthus. Alors Malthus était un monsieur qui vivait au XVIIIe siècle, à une époque où il y avait presque 1 milliard d'individus. Et monsieur Malthus avait dit, oh, 1 milliard d'individus, c'est trop. Il y en a au moins la moitié en trop, 500 millions, ça serait mieux. Et on peut compter sur des famines à venir pour qu'on retombe à un chiffre normal de 500 millions. Alors vous voyez qu'en dépit de monsieur Malthus, on est passé à 6,7 milliards l'année dernière. Alors, ça, c'est bien gentil, mais il faut bien vous dire que à toutes les époques, et même maintenant, on entend dire, nous sommes trop nombreux, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, bon, 9 milliards en 2050, pourquoi pas ? Le problème, c'est comment s'habituer à ce chiffre qui peut sembler absolument faramineux. Bon, alors, là, c'est la seule chose dont je suis sûr, il y aura au minimum 9 milliards d'habitants en 2050, avec la question qui suit, qu'est-ce qu'ils vont manger, et sinon qu'est-ce qu'ils vont boire, et où vont-ils habiter? C'est pas tout à fait l'eau, mais vous voyez, c'est bien pas là. Alors, j'aimerais bien vous dire également que le changement climatique fera que, mais ayant fait de longues études de climatologie, ayant enseigné la climatologie pendant de longues années, je ne sais pas ce que c'est que le changement climatique. Un exemple très simple, la moitié des scientifiques avec qui je suis en correspondance disent, dans quelques années, le sud de la France ressemblera au Sahel, la région de Bordeaux, autrement dit, tout à fait dans la sécheresse, avec des palmiers. Et où fera-t-on des vins de Bordeaux ? Eh bien, d'après eux, on les ferait du côté de l'Angleterre. Le climat océanique serait tout à fait propice à de bons vins, du en bordelais. Ce qui serait un juste retour des choses si on se réfère à l'histoire. Alors, d'autres gens précisent au contraire que le Gulf Stream qu'il y a une fusion des glaces, eh bien, il y aurait au contraire, il ferait froid. Et on peut penser qu'on aurait un climat à peu près analogue à ce qu'on appelle en termes géologiques le Trias, c'est-à-dire à peu près celui du Spitzberg en Angleterre, et pas beaucoup plus chaud, avec un peu d'aulne glutineux dans la région bordelaise. Donc vous voyez qu'entre la steppe et la région périphérique du Grand Nord, ben, la marge est grande et qu'il y a des scientifiques qui expliquent que l'un ou l'autre peuvent venir. Donc je n'en parlerai pas. Un risque, par contre, qui est certain, c'est que devient la biomasse. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais depuis ma jeunesse, la forêt amazonienne a diminué de 40%. Or, la forêt amazonienne et la forêt congolaise sont les deux grands régulateurs des précipitations aux latitudes tempérées. Donc, vous voyez, il y a un risque là qui est incontestable. Alors, il y a une seule certitude. Compte tenu du nombre, ben, il y aura une demande en eau qui sera exponentielle, pratiquement. Et le problème est de savoir où allons-nous trouver l'eau. Alors, vous voyez, pour arriver à l'eau, je suis obligé de passer par les hommes, le climat et la biomasse. Alors, je vous signale quand même pour l'incertitude climatique, actuellement, j'ai deux thèses en route. L'une sur le Haut-Nil et l'autre sur le Sénégal. Et l'une et l'autre thèse, au moment où on dit que, je vois dans toutes les publications scientifiques, que le désert avance vers le Sénégal. Or, l'isoïette des 300 mm, c'est-à-dire là où on peut cultiver à peu près des céréales tranquillement, a progressé de 150 à 300 km vers le nord au cours des 10 dernières années. Alors vous voyez qu'on n'est pas très au fait de ce qui va se passer et ne pas se passer du point de vue climatique. Alors, y a un scientifique qui m'a dit il n'y a pas longtemps, bah, écoutez, si l'isoïette avance vers le nord, cette isoïette a tort, il devrait normalement faire plus sec. Bon, très bien. Je n'ai pas insisté. Voilà, bon, ouf. Alors, l'eau. Je ne sais pas comment, il y a 36 manières de présenter l'eau. Celle qui intéresse une répartition géographique des hommes et des ressources, c'est la notion de contrainte et de pénurie. On estime qu'il y a assez d'eau pour tout un chacun et pour diverses activités industrielles, agricoles, urbaines ou autres, lorsqu'il y a 1000 mètres cubes par personne et par an. C'est un calcul très théorique auquel je ne crois pas beaucoup, mais enfin, bon, c'est une espèce de barrière d'usage qui est bien pratique. Alors, lorsqu'il y a 500 mètres cubes par personne et par an, ou moins de 500 mètres cubes, on dit qu'il y a pénurie. Alors ça se discute énormément. Je prendrai simplement le cas d'Israël. En Israël, il y a 430 mètres cubes par personne et par an. On s'en tire très bien, avec tout de même quelques différences. Ben, ça fait un peu plus que cette moyenne côté israélien, et ça fait 90 mètres cubes par personne et par an dans la bande de Gaza, ce qui pourrait expliquer certaines choses. En particulier, que les gens soient mécontents. Bon, simplement, il y a ici une carte de toute beauté. Non, elle n'est pas bonne, mais enfin, c'est celle qui court partout. Voilà. Voilà la situation actuelle de l'eau dans le monde. Alors, vous voyez qu'en bleu très foncé, c'est là où il y a beaucoup d'eau. Alors, l'ennui, c'est qu'il n'y a personne. Le Canada, il y a une toute petite frange habitée. Derrière cette frange, il y a d'énormes terres parfaitement cultivables, pas bien mises en valeur, et qui permettraient de tripler ou quadrupler la production de céréales dans le Canada de façon presque instantanée s'il y avait une demande sur le marché. Mais il n'y a pas la demande sur le marché, parce que quand on achète, quand on prend des céréales, il faut les payer. Cette carte ne veut... Alors, les gens qui ont le plus d'eau, bien, ce sont les gens du Brésil qui en ont, je crois, plus de 60 000 mètres cubes par personne et par an. Mais ça ne veut rien dire. Cette carte n'est pas très heureuse. J'en avais fait une à la main, mais elle n'était pas jolie, je n'ai pas mise. Ce coin ici, le Ceará, est un des plus secs du monde. Et l'Amazonie, le coin le plus arrosé du monde. Alors vous voyez qu'il faut faire une moyenne à l'échelle nationale. Même chose pour l'Australie. Oh, qu'il y a beaucoup d'eau dans ce pays. Mais en fait, l'intérieur est parfaitement sec. Cette région, c'est un genre méditerranéen, plutôt sec. Et là, il pleut que c'en est une véritable catastrophe, 8 à 10 mètres de pluie par an. Alors c'est quand même beaucoup. Alors vous voyez, l'Union soviétique, même problème que le Canada, d'énormes terres qui sont en friche et qui pourraient permettre de doubler, tripler, quadrupler la production russe de blé. Alors à l'inverse, les gens qui sont malheureux, ils ont les Égyptiens par exemple, ont 970 mètres cubes par personne et par an aujourd'hui. C'est pas mal, faut pas se plaindre. Mais là ici en Libye, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, c'est-à-dire qu'ils pompent de l'eau dans le sol et que ça n'est pas éternel. Les Algériens ont 400 mètres cubes par personne et par an. Ils ne s'en tirent pas trop mal avec ça. Donc, vous voyez, je ne sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui. Mais en tout cas, la Mauritanie derrière, ben, il n'y a pas beaucoup d'eau non plus. La Somalie, il n'y en a pas non plus. Vous voyez, donc, on voit les régions qui sont déjà en manque d'eau. C'est tout ce pourtour méditerranéen, un peu l'Afrique orientale et des régions intérieures. Voilà donc, si vous voulez, ce que la répartition de l'eau. Vous remarquerez que la Chine n'est pas très bien desservie. La France, oh, c'est pas trop mal, c'est moyen. L'Espagne, salaire moyen comme ça, c'est pas vrai. Si cette carte, la carte est faite à l'échelle de l'État espagnol. Mais si on avait une carte détaillée, on verrait que le sud-est de l'Espagne est aussi sec que l'Algérie. Donc il faudrait nuancer un peu cette carte. Alors je l'ai mise, pourquoi ? Parce qu'elle est très officielle, c'est une carte du Programme national des Nations Unies pour le développement, et elle court partout, elle a un caractère en quelque sorte officiel. C'est pourquoi elle est là. Alors je vais essayer de retourner en arrière. Non, voilà. Pays et régions de contre-intérêt, les pays de régions... Mais voilà, j'ai tout dit. Bon, alors, on va passer. Qu'est-ce que ça sera en 2050 ? Alors en 2050, ça, voilà une carte intelligente, je l'ai faite. Vous voyez à quel point je suis un cartographe tout à fait compétent. Je la trouve très belle, mais il n'y a que moi qui dois la trouver très belle. C'est un joli brouillon. Alors vous voyez tout de suite que les régions qui seront en état de pénurie, bon, il y avait déjà celles que j'ai signalées tout à l'heure, mais regardez cet énorme pays, le Pakistan. Il sera en manque d'eau, il y aura 400, à peine 400 mètres cubes. Là, ici, 200 mètres cubes dans la Somalie. L'intérieur de l'Afrique du Sud, 300 mètres cubes. Alors, des gens qui ont maintenant assez d'eau, mais dont la population augmente rapidement, seront dans un état de contrainte hydrique. C'est-à-dire qu'ils ont moins de 1000 mètres cubes par personne et par an. Or, ça a l'air de rien, mais c'est l'Inde, le second pays le plus peuplé du monde. La Chine sera pas loin, mais comme sa population n'augmente pas, elle s'en tirera, ça restera à peu près ce que c'est maintenant. Alors, vous remarquerez que dans les régions qui seront en état de contrainte hydrique, eh bien, vous avez des régions européennes, l'Espagne du Sud, mais également, chose bizarre, le pourtour de la Baltique, avec en particulier l'Allemagne et la Pologne. Alors, l'Allemagne et la Pologne, ce n'est pas des pays dont la population augmente beaucoup, mais dont les besoins augmentent alors que les ressources diminuent. Les ressources diminuent tout simplement parce qu'il y a usure des sols et donc écoulement plus rapide des eaux dans tout le nord, dans tout le pourtour de la Baltique. Le Kazakhstan sera, je crois, ce sera en train de passer au rouge également. J'ai mis en jaune par honnêteté. Vous voyez que le continent américain, tranquille, l'Australie aussi, l'Union soviétique, là, aucun problème de ressources hydriques dans ces pays-là. Donc vous voyez que dès le départ, il y a une question dramatique, c'est que les pays qui sont en rouge et en jaune sont tous, sans aucune exception, à part l'Allemagne et la Pologne, sont tous des pays dont la population double soit en 30 ans, soit en 40 ans. Donc 40 ans, c'est 2050. Ils auront des questions très graves à régler à ce moment-là. Et vous voyez que ça intéresse quand même pas mal de monde. J'ai mis les zones de conflit, on y reviendra tout à l'heure, si j'arrive à faire marche arrière avec cet instrument. Mais tout ça est quand même, à mon avis, ça pose pas mal de problèmes. C'est inquiétant, voilà ce que je voulais dire. Alors, qu'ils ont mis 50, bon, alors, voilà le défi, comment accroître la production, et j'écris dans les pays à forte croissance démographique, c'est-à-dire l'Afrique noire, les Sahel, l'Asie du Sud-Est. Ce sont les pays dont la population va doubler en une trentaine d'années. Alors, comment vont-ils trouver de l'eau ? Bien, ils sont obligés de la trouver hors de leur région d'habitat. On ne trouvera de supplément de terre et de récolte que dans le Canada et dans la Sibérie et peut-être un peu en Argentine et au Brésil du Sud. Il n'y aura pas d'accroissement de récolte, en particulier en relation avec l'irrigation, en dehors de ces trois régions. Et là est la question, évidemment, de la survie des populations qui n'ont pas cette chance. Alors, évidemment, on peut rêver de transfert d'eau, c'est-à-dire amener de l'eau des pays qui en ont trop vers des pays qui n'en ont pas assez et qui se fient à l'irrigation. L'exemple le plus classique actuellement et pour les années à venir, parce que c'est un projet sans plus, c'est un transfert d'eau depuis, je reviens en arrière si ça peut vous intéresser, suite à la crise trophique. Non, c'est dans ce sens-là. Non, voilà. Bon, trop d'eau au Canada, pas assez d'eau aux États-Unis, pour une raison très simple. Les États-Unis, le Texas, qui est la grande région, le Texas et l'Oklahoma, qui sont les grandes régions céréalières, pompe l'eau dans une nappe et cette nappe est en voie d'épuisement. qu'à cela ne tienne, il y a tellement d'eau au Canada qui se déverse dans la baie d'Hudson, là-haut où je ne peux même pas atteindre tellement c'est loin. Donc la baie d'Hudson, cette eau ne sert à rien, apparemment, si ce n'est du point de vue biologique. D'où une idée formidable qui est d'arrêter les grands fleuves, en particulier les Mackenzie et autres, qui s'en vont vers le Grand Nord, faire des barrages et les refouler vers le sud et les États-Unis. Alors, ça n'a l'air de rien, mais les États-Unis prétendent que dans le cadre de l'ALENA, l'eau est un bien commun. Les Canadiens, au contraire, disent l'eau, c'est notre richesse, et on n'en a pas tellement que ça, vu qu'on est des gens du Nord, que le Nord n'est pas très fertile. Alors, nous entendons garder cette eau. Donc, on peut prévoir ou bien que les choses restent en état vers 2050, ou bien que se réalisent les grands projets de transfert. Ça n'a l'air de rien, mais ça suppose, pour reporter les eaux de la baie d'Hudson vers le Texas, ça suppose la création de 7 ou 8 grands barrages, de autant d'usines nucléaires pour remonter les eaux et leur faire passer le seuil en direction des Grands Lacs. Et à partir des Grands Lacs, créer un canal qui s'appelle le canal du Dakota qui irait jusqu'au sud des États-Unis au Texas. Donc vous voyez, c'est un programme gigantesque. Il y a le même programme exactement en Union soviétique où il y a un fleuve, l'Ob, avec son affluent l'Irtych, qui se jette dans le Grand Nord. Ça ne sert à rien, dit-on. D'où l'idée de créer un barrage qui arrête l'Ob et de renvoyer son eau là où on en a besoin. Et comme par hasard, ça serait la mer d'Aral, dont nous savons tous qu'elle est en train de disparaître. Alors les gens de la mer d'Aral seraient tellement heureux, ça serait vraiment... Bon, etc., etc. Moi, j'en entends parler tout le temps. C'est un plan, il s'appelle Davidov. Il date des années 1930. Je l'ai cru enterré jusqu'à ce que Khrushchev arrive au pouvoir. On en a donc reparlé dans les années Khrushchev en 1960. Et de nouveau, j'en entends parler maintenant à l'Académie des sciences de Moscou avec un projet qui démarrerait, il faut le préparer, qui démarrerait en 2030 pour être achevé en 2040-2050. De retournement des eaux de l'Ob Irtych vers la mer d'Aral et la Caspienne, ce qui permettrait de fertiliser l'énorme désert du Kazakhstan. Je ne sais pas si vous voyez la suite. Le Kazakhstan, ce n'est pas la Russie, mais l'Ob, il est en Russie. Donc si on détourne les eaux de l'Ob au profit du Kazakhstan, il faudra que les Kazakhs soient extrêmement polis avec les Russes s'ils veulent vraiment avoir de l'eau. Donc nous voyons venir, à côté des problèmes d'adduction d'eau, on voit venir autre chose qui est tout simplement la politique. Des régions, les pays sont pires, d'accord. Non, je n'ai rien dit. Transfert à la limite. Ah, qu'est-ce que c'est que l'eau virtuelle? Vous avez entendu parler de l'eau virtuelle? Non. Alors, je vais vous dire tout sur l'eau virtuelle. Quand vous produisez une tonne de blé, vous avez consommé à peu près une tonne d'eau pour produire ce blé. Si donc vous importez une tonne de blé en Égypte ou en manque d'eau, ce sera exactement comme si vous aviez importé une tonne d'eau. Et si vous importez une tonne de bœuf, ce sera exactement comme si vous aviez importé 15 tonnes d'eau. Donc vous voyez qu'il y a un transfert d'eau à travers des céréales, à travers la viande, à travers n'importe quel produit agricole. Alors le problème, évidemment, c'est que seuls les riches peuvent se payer cette eau virtuelle. Le cas de l'Égypte est très intéressant, j'y reviendrai sans doute tout à l'heure, mais je crois que je mélange tout, il faut tout mélanger effectivement, c'est que les Égyptiens produisent 40% du blé qu'ils consomment, que les 60% viennent un tout petit peu via la France, un tout petit peu via la Russie, et surtout via les États-Unis. Et les Égyptiens ne peuvent pas payer ce blé, et cette eau, par conséquent. Et, bien entendu, il faut que les Égyptiens soient bien polis. C'est une chose très impressionnante que de voir le port d'Alexandrie. Dans le port d'Alexandrie, il y a d'immenses silos. Ils sont moitié pleins, moitié vides. Jamais pleins. Mais à l'horizon, il y a un cargo qui attend d'être déchargé. Supposez que les Égyptiens, je ne sais pas pour quelle raison, se mettent d'un seul coup à soutenir la Palestine à tout bout de... à tout va, si j'ose dire, aux dépens d'Israël, eh bien le cargo repartirait vers je ne sais où, là où on peut payer le blé. Donc vous voyez qu'il y a des questions de dépendance à travers cette question d'eau virtuelle. Mais il y a pire, les riches font leur marché. Vous n'avez pas lu, vous avez tort, tous les jours, tous les matins, il faut lire Le Monde, qui est le seul journal sérieux en France. Je ne devrais pas faire de pub, mais enfin ça y est, c'est fait. Alors Le Monde, il publie tous les 8 jours, le mercredi, une carte sur un problème soit économique, soit écologique. L'avant-dernier, qui est sorti il y a 15 jours, autrement dit, était consacré aux achats de terres irrigables que font les pays riches. La Corée vient d'acheter 2,5 millions d'hectares irrigables, dont 1 million à Madagascar. Le reste se situant surtout beaucoup dans l'Afrique orientale et un peu aux États-Unis. Le Japon, au Brésil, 1 million d'hectares. La Chine, 1 million et demi. La Chine, mais ces gens produisent pourtant en quantité, ils nourrissent leurs gens. Ils ne sont pas sûrs d'y arriver. C'est pourquoi ils ont décidé d'acheter des terres. Ils ne les achètent pas n'importe où. T'as fini de rigoler là-bas. Je relève les noms à la fin. On sent les vieux profs, hein, là. Bon, ceci dit, c'est moi que tu trouves malheureux. Tu me fais bégayer. Bon, alors, je vous avais dit, madame, qu'il fallait faire des coupures, n'est-ce pas ? Bon, alors, les Chinois, ben, ils achètent des terres. Mais non seulement ils achètent des terres, mais ils foutent les gens, ils mettent les gens à la porte et ils mettent des Chinois à la place, en particulier actuellement au Kenya. Leur programme porte sur 1 million d'hectares. Ils en achètent un peu, ils en ont déjà acheté au Sénégal. Et alors au Sénégal, j'ai vu comment ça se passait. Je vais voir comment ça se passe. C'est extrêmement simple. On commence par dire aux gens, on va vous montrer comment on cultive le riz. Puis petit à petit, on prend leur place. Et puis finalement, on achète la terre au village. Et on importe des Chinois qui sont là comme chez eux, qui mourront. Ils ne reviendront pas en Chine. Autrement dit, la Chine est en train de faire un mouvement colonial, comme les Européens en ont fait un au XIXe siècle. Donc les riches ont leur marché, disais-je, et voilà donc ce à quoi j'aurais dû l'ordre logique. Ben, quand vous êtes pauvre, vous êtes obligé d'apporter de la nourriture qui représente de l'eau, en fait, et vous êtes dépendant du point de vue politique. Référence à l'Égypte, mais je trouverais bien d'autres références si je cherchais sérieusement. Bon. Alors, pas sûr de pouvoir manger. Cet exposé est très mal fait. J'ai ici une. J'aurais voulu faire une carte, je pense que vous la ferez, madame. Que faut-il faire pour qu'on ajuste la production agricole à la croissance de la population ? Eh bien, dans un certain nombre de pays, il faudrait que la production agricole augmente de 4,5% chaque année jusqu'en 2050. Alors, je vous les donne : l'Éthiopie, le Mozambique, le Congo. Zaïre, le Libéria, le Burundi, le Malawi, l'Angola, le Rwanda, Sierra Leone, Niger, Ghana, Tchad. Ben, c'est des pays africains. Il y en a d'autres, le Nigeria, le Congo, Haïti, français. Haïti, la Côte d'Ivoire, la Zambie, l'Ouganda. Oui. Donc c'est impossible de penser que ces pays peuvent accroître leur production de 4% par an pendant 40 ans, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien il va se passer ceci, que vous le vouliez ou que vous ne vouliez pas, grande migration internationale. Actuellement, il y a tout un programme soi-disant d'accord avec des pays pour contrôler les mouvements de population, soit des expéditions par avion de retour. Il n'y aura rien à faire. Ou les gens meurent de faim chez eux, ou ils s'en vont vers des pays riches. Donc, l'Afrique noire va se déverser sur l'Europe, il n'y a rien à faire, ça arrivera, quoi qu'en dise M. Hortefeux ou son successeur. L'Amérique centrale est en train d'envahir les États-Unis, s'appelle les Latinos, n'est-ce pas ? Et ils tiennent maintenant une place tout à fait importante. Quant à l'Asie méridionale, eh bien, elle se trouve, c'est-à-dire l'Inde et Jakarta, etc., ça se trouve essentiellement en Grande-Bretagne, en Australie, bref, dans toutes les au Canada, dans toutes les terres d'obédience britannique. Voilà. Alors, la Chine des migrations planifiées, ben, je vous en ai parlé tout à l'heure, les Chinois sont en train de coloniser l'Afrique orientale, tranquillement, sans faire de bruit, méthode chinoise. Simplement, les gens ne migreront pas tous. On est sûr et certain que les gens vont faire le calcul suivant. Si je reste à la campagne, je meurs de faim. J'ai pas de terre, la production est insuffisante, on me met à la porte de toute façon. Alors, si je ne peux pas émigrer, je vais aller dans une ville. Mais pas n'importe quelle ville, la grande ville. Pourquoi ? Parce que dans la grande ville, si on est trop malheureux, il y aura des émeutes, des révolutions. Pas de révolution, pas d'émeute. Donc, du blé, nourrir les gens. Personnellement, je connais assez bien le Caire, assez bien Dakar, et je sais ce que c'est que l'angoisse des dirigeants, des responsables, face à ces masses de gens qui, tous les jours, demandent à acheter du pain à un prix ridicule. Au Caire, le prix du pain, ça doit être de l'ordre de 2 ou 3 centimes le kilo. comprenez bien que ça n'a aucun rapport avec le prix du blé et ni avec le prix de la transformation. C'est l'État qui paye la différence. Alors, donc, la ville refuge, ben, ça va donner des métropoles de 20 millions d'habitants. Alors, on les connaît, ces métropoles. La ville la plus importante du monde, ça sera bientôt Mexico, à côté de Tokyo, bien entendu, mais à côté de Bombay, Mumbai, ça s'appelle maintenant. Mais Dakar, par exemple, qui est une ville assez modeste maintenant, fera sans doute 7 à 8 millions d'habitants. Accra fera 10 millions d'habitants. Oui, mais des villes de 20 millions d'habitants, elles seront toutes dans les pays pauvres du Sud. C'est-à-dire, ce sera Lagos, ça sera Jakarta, ça sera les villes, les grandes villes indiennes. Il y aura au moins 3 villes de plus de 20 millions d'habitants dans la République indienne. Seulement, ce seront des villes que j'appelle en désordre. C'est-à-dire qu'au mieux, il se passe ce qu'on voit dans toutes les grandes villes, je dirais même en Italie. C'est-à-dire que les gens arrivent et ils installent d'abord une tente avec leurs chèvres. Ça, j'ai vu ça beaucoup en Algérie. Puis au bout d'un certain temps, ils font des espèces de baraques avec de la tôle ondulée, des caisses, des cagettes de fruits, de récupération, des trucs comme ça. Et la toile goudronnée, on fait donc une cabane. Et puis après, on cherche s'il y a de l'eau. Et on trouve des robinets de temps en temps. Il y a des conduites d'eau, des robinets. Devant ces robinets, il y a des queues qui font quelquefois 500, 800 mètres de long, dans des chaleurs épouvantables. Ça s'appelle les robinets bagarres, parce que les femmes se battent pour avoir accès à l'eau. J'ai mis le trottoir. C'est pas qu'elles font le trottoir, c'est que le trottoir est un habitat recherché. Parce que si vous n'avez pas le trottoir qui est sec, vous avez le milieu de la rue qui est un cloaque. Tiens, pourquoi est-ce que le milieu de la rue est un cloaque? Bien, pour une raison très simple, c'est que dans les villes de ma connaissance, c'est-à-dire Le Caire, c'est-à-dire également Alger, c'est-à-dire Dakar, les réseaux, ils ont en moyenne 50 ans ou 60 ans d'âge. À Dakar, on me dit « Oh, c'était neuf quand c'était la France ». Alors ça fait donc 54, 62, l'indépendance, on n'a rien touché depuis. Mais ce n'était pas forcément neuf au moment de l'indépendance. Alors le résultat est très simple. La perte en ligne, c'est-à-dire... Vous mettez dans un réservoir 1000 mètres cubes, combien vont arriver au robinet ou aux conduites principales? Eh bien, sans doute 30 à 40%. À Alger, les pertes mesurées sont de l'ordre de 70%. Mais les 70%, ils ne sont pas perdus pour tout le monde. Ça suinte de tous les côtés. Autrement dit, la rue devient très vite, à la moindre pluie, une espèce de cloaque. D'autre part, il y a des conduites d'assainissement dans ces grandes villes, mais les conduites d'assainissement sont tout à fait poreuses. Alors, quand vous mettez une conduite d'assainissement poreuse en face d'une conduite d'alimentation poreuse, elles finissent par se mélanger avec plus ou moins de bonheur, et je dirais plutôt moins de bonheur que plus. Alors, le résultat, ça s'appelle la fièvre jaune. Voilà. Donc, c'est des villes cloaques, insuffisance des réseaux, et alors, inégal accès à l'eau. Alors, ça, c'est une chose très frappante. J'ai dirigé des thèses dans des pays aussi différents que Djibouti et Jakarta, ou Alger. Alger, c'est la ville la merveilleuse pour ça. Alger, quand vous habitez dans le quartier du gouvernement, il y a de l'eau tous les jours, à tous les étages. Et puis, dans des quartiers moins bien, il y a de l'eau au fond du couloir. Dans les quartiers un peu moins bien, il y a de l'eau en bas dans la rue. Puis, dans les quartiers encore moins bien, il y a un voiturin avec un âne et un monsieur qui vous enfant de l'eau au jerrycan. Alors des gouvernements de gauche bien inspirés, comme celui de Djibouti, remplacent l'âne et le voiturin de 200 litres par un camion-citerne qui fait le tour du quartier. Mais tout ça, c'est quand même malheureux. Vous voyez à quel point c'est... À Djibouti, ce qui m'a frappé, c'est que le camion passait tous les 8 jours. Alors, tous les 8 jours, on remplit donc la baignoire, puis comme on économise l'eau, au bout de 8 jours, on a la baignoire encore moitié pleine, on la vide pour remplir. Autrement dit, la pénurie génère le gaspillage. L'inégal accès à l'eau, c'est également le robinet bagarre, mais j'en ai parlé. Oui, eh bien, l'eau et la santé, autre thème rapide. L'irrigation, c'est la ressource. Alors, l'irrigation, c'est un truc formidable, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus, tellement je nage là-dedans tous les jours que Dieu fait. Vous prenez du maïs qui n'aurait fait de mal à personne, vous le cultivez dans le Dakota, ça donne 50 quintaux à l'hectare. Vous mettez de l'eau, vous passez sans hésitation à 140 quintaux à l'hectare. Alors vous voyez tout de suite que l'irrigation, c'est une bonne chose. C'est surtout une bonne chose quand elle est bien maîtrisée, mais elle ne l'est pas toujours. Et dans les pays comme l'Égypte, où il y a une grande familiarité de l'eau, l'idée est que l'eau du Nil étant sacrée, ben, on peut boire l'eau du Nil. Malheureusement, elle passe dans des canaux. Les canaux servent à toutes sortes de choses, même de fausses d'aisance. Mais comme le Nil purifie tout, on boit l'eau des canaux en question. Bien, le résultat, c'est que là où on met l'irrigation, on voit que les gens ont un très gros ventre. Alors, est-ce qu'ils sont bien portants ? Non. Ils souffrent de bilharziose. La bilharziose, c'est une saleté de petits escargots qui est gros comme le quart du huitième de mon ongle de... Comme ça, là, tout petit, un demi-millimètre. Alors, ils rentrent dans vos pieds que vous mettez dans l'eau. Ils circulent. Il fait une espèce de larve qui ressort par votre vessie, mais qui va être régurgitée après en état un peu plus propre, qui se logera définitivement dans votre estomac avant de pondre à nouveau. Alors, ça gonfle dans l'estomac et les gens finissent par être malades ou en mourir à la rigueur. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que quand on va au Caire, bien entendu, on fait du tourisme. Alors, on visite les tombeaux et on voit sur les tombeaux des paysans qui travaillent et ils ont un gros ventre. Autrement dit, la bilharziose, elle existait déjà du temps des pharaons, mais elle se porte bien. Alors, j'ai longtemps cru que la malaria était une maladie obligatoire. Jusqu'à ce qu'un de mes anciens étudiants, qui se porte bien, j'ai connu, il faisait au moins 60 kilos, il était maigre. Alors maintenant, il fait au moins 110 kilos. Et il dit à ses assistants, gratte-moi le dos, amène-moi mes babouches, etc. C'est un grand chef, autrement dit. Et il a trouvé une chose très curieuse, c'est que là où on installait l'irrigation, immédiatement, la malaria arrivait. Mais là où les enfants des enfants étaient nés avec de l'eau de l'irrigation, la malaria était bénigne. Autrement dit, il y a une accoutumance à la malaria, ce que on n'avait pas trop prévu, et les études que fait ce grand chef africain sont extrêmement sérieuses et commencent à être exploitées dans le monde entier, parce qu'on se demande pourquoi et comment est-ce qu'il y a cette espèce d'accoutumance à la malaria. Par contre, la bilharziose n'a rien à faire, elle progresse sans arrêt. Alors la ville et les maladies de l'eau, je vous ai dit que les conduites se mélangeaient, ça donne quelque chose de bien, la fièvre jaune et de nombreuses parasitoses. Je n'insiste pas sur les parasitoses. Dialogue du matin, comment allez-vous ? Oh, que j'ai mal dormi. Qu'est-ce qui vous arrive ? Oh, j'avais des vers, des petits rouges, ils sont féroces. Oh, moi c'était des blancs, ils sont tranquilles. Entendu. C'est comme ça. Et ça atteint tout le monde, le ministre également. Alors, ce qui est sympathique, c'est que les maladies de l'eau, elles ont de l'avenir devant elles. Savoir le fait que ces dernières années, on a vu arriver un nanophèle qui s'appelle le moustique d'Égypte, Anopheles aegypticus, qui est arrivé à New York via des avions qui venaient d'Amérique du Sud. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a trouvé également en Camargue, où il a rendu des gens malades. Alors on espère que ça ne va pas. S'il y avait vraiment un changement climatique, s'il y avait vraiment un accroissement de température, eh bien là, on est à peu près certain que la maladie, la malaria spécifique de l'Égypte arriverait chez nous. Donc la santé, l'avenir est plein d'espoir de notre côté. J'ai rien dit. Bon. Ah, oui, je crois que c'est... Oui, encore du temps, madame ?
Oui.
Bon. Voilà. Crise ou guerre de l'eau ? Ah. Alors, je vais revenir en arrière où il y a des tas de petits points. Alors, sur cette carte merveilleuse, évidemment, c'est moi qui l'ai faite, vous voyez de très nombreuses petites croix qui sont autant de zones de conflits potentiels. Alors, des conflits dans tous les genres. Quel conflit voulez-vous ? Je vous propose celui-là, je le trouve très intéressant. C'est le conflit égyptien. Ici, là et là. Alors, le conflit de l'eau égyptien, c'est très simple. Les Égyptiens vous diront que l'Égypte est un don du Nil. Bon. L'ennui, c'est que jusqu'en 1880, il n'y avait que les Égyptiens qui utilisaient l'eau du Nil. Du coup, ils avaient droit à peu près à l'époque à 2500 mètres cubes par personne et par an. Et puis en 1880, les Anglais colonisateurs ont trouvé le moyen d'introduire le coton au Soudan, dans ce qu'on appelle la Djezirée. Et ce coton soudanais il a quand même commencé par prendre 4 mètres cubes. Puis après, il a pris 20 mètres cubes en 1957. Et maintenant, les Soudanais disent qu'ils ont de vastes projets et qu'ils veulent un peu plus d'eau. De sorte que la dotation égyptienne est passée de 90 mètres cubes par personne et par an, non, 900 mètres cubes par personne et par an, en quelques années, à maintenant 700 mètres cubes par personne et par an. Et peut-être, ça va diminuer très rapidement. Diminuer très rapidement, pourquoi ? Parce que non seulement il y a les Soudanais qui veulent agrandir leur part, mais les Éthiopiens font remarquer une chose. Premièrement, leur population double en moins de 30 ans. Ils s'y appliquent. Deuxièmement, ce qui est non moins essentiel, ils produisent, ils donnent, le château d'eau égyptien produit 86% de l'eau mesurée à l'aval du barrage du confluent de Nil Blanc et du Nil Bleu à Khartoum. Donc 86% du débit vient d'Abyssinie, d'Éthiopie. Et les Éthiopiens utilisent 0,3% de l'eau du Nil. Or, ils ont de vastes projets, soutenus en particulier par le programme des Nations Unies pour le développement, et ils voudraient irriguer 1 million d'hectares. 1 million d'hectares minimum, en attendant mieux, ce qui veut dire que la dotation égyptienne pourrait diminuer encore de 10 à 15%. Donc, les Égyptiens, actuellement, il vient d'y avoir, il y a de ça, en novembre dernier, une conférence à Addis Abeba, pour laquelle les Égyptiens ont dit que si le programme se mettait en route, ils considéraient que c'était un cas de guerre et qu'ils ne déclareraient pas la guerre à l'Éthiopie, mais qu'ils détruiraient systématiquement par aviation les barrages. Or, il n'y a que les Égyptiens qui ont une aviation sérieuse dans toute l'Afrique du Nord-Est. Après, pour en trouver une sérieuse, il faut aller beaucoup plus loin. Donc, il y a là un risque de guerre qui ne sera pas une guerre. Nous ne déclarerons pas la guerre, nous nous contenterons de détruire les barrages. C'est une guerre d'un nouveau genre que n'avaient pas prévu les traités de polyarcétique. Alors, voilà donc un type de conflit. Un autre type de conflit bien connu, c'est le partage de l'eau inégale en Israël, où l'Israélien moyen a le droit de creuser un puits à 700 mètres de profondeur, pour trouver la pratique, et où le Palestinien qui habite à côté a droit à un puits de 20 mètres. Mais à 20 mètres, il n'y a pas d'eau. Il faut creuser à 700. Alors, il creuse un puits, puis il n'y a rien. Sympathique. Là, ici, c'est un bon conflit, plein d'avenir. Le pays qui est ici, c'est la Turquie. La Turquie, c'est l'Euphrate. Alors, pendant des millénaires, depuis la Mésopotamie, Hammurabi, etc., l'eau venue de Turquie a été utilisée uniquement par les Mésopotamiens qui s'appellent maintenant les Irakiens. L'ennui, c'est que depuis 30 ans maintenant, les Turcs mettent au point un grand programme d'irrigation qui ne sera achevé qu'en 2040. Et à ce moment-là, il n'y aura plus beaucoup d'eau pour les Irakiens. Alors, que feront les Irakiens ? La question est de savoir quelle sera, à l'époque, l'armée la plus puissante, la turque ou celle des Irakiens. Il y a de ça quelques années, la confrontation était possible. Côté turc, il y avait l'Amérique qui appuyait, mais côté irakien, il y avait Saddam Hussein qui avait tout ce qu'il fallait comme armée et qui était prêt à faire la guerre avec la Turquie. Bon, Saddam Hussein est éliminé, l'Irak étant pas tout à fait en odeur de sainteté, bien pour le moment, les Turcs poursuivent sans trop d'ennui leur prélèvement d'eau pour irriguer 2,5 millions d'hectares dans l'avenir. Donc vous voyez que, à l'horizon qui est le vôtre, la situation sera pleine d'intérêts. Alors là où la croix, au plein milieu du désert russe, c'est la question de l'Obirtich. Si on coupe l'Ob pour le rabattre vers la mer Caspienne, oh que les Kazakhs, que les Turkmènes, tous ces gens-là seront heureux. L'ennui, c'est que si on coupe l'eau qui vient vers le nord, immédiatement, ça va créer un appel au vide, donc une remontée du Gulf Stream vers l'extrême nord, puisqu'il n'y a plus d'eau qui arrive. Ce seront les courants marins qui pourront aller plus loin. Pour le moment, il y a un courant marin qui remonte vers la Norvège, qui s'en va vers Moudmansk, qui continue, qui finit par aboutir du côté du Kamchatka. Si on arrête l'Ob, c'est l'Ob qui l'empêche d'aller plus loin. Si on enlève l'Ob, ce courant pourra se répandre sur tout le littoral nord de la Sibérie et le réchauffera. Alors évidemment, le changement climatique, là, il serait vraiment une construction humaine. Alors, est-ce que ça arrivera ? Est-ce que ça n'arrivera pas ? Moi, j'ai cru que ce plan était enterré. Curieusement, je le vois revenir. Alors, donc voilà pour le là ici, le Canada, je vous en ai parlé. Là ici, c'est un petit conflit que je trouve très intéressant. Dans les Rocheuses, vers Junction City, là où, vous savez, dans Lucky Luke, à un moment donné, il y a un chemin de fer qui vient de l'Atlantique, qui vient du Pacifique, et il se rencontre à un endroit qui s'appelle Junction City. On plante un clou d'or. Alors, une fois Lucky Luke parti, des gens sont arrivés ici, il y avait de l'eau, et ils ont créé, à 1500 mètres d'altitude, mais à une latitude méridionale, ils ont créé une très belle, un très beau paysage agricole. Or, à quelques distances de là, en plein désert, il y a Las Vegas. Alors, la première fois que je suis allé à Las Vegas, c'était une ville de 100 000 habitants. Je suis vieux, mais quand même pas tellement que ça. Or, maintenant, Las Vegas, c'est 1,5 million d'habitants. Alors, que se passe-t-il? Comme Las Vegas est une ville très riche, on achète les droits d'eau des agriculteurs de Junction Valley à n'importe quel prix. Bien entendu, à n'importe quel prix, ils finissent par vendre. Et petit à petit, cet endroit qui était vraiment quelque chose de très beau est en train de devenir un désert. Je n'ai plus reconnu les choses au bout d'un certain temps. Rio Grande, les Américains détournent l'eau juste avant la frontière et les Mexicains n'ont rien. Ils ne sont pas contents. Tout à fait à l'aval, là ici, un beau barrage qui emmène l'électricité vers le Brésil et qui ne laisse rien aux voisins, le Paraguay. Alors les Paraguayens râlent pas encore, mais ça pourrait venir. Donc je pense que c'est tout à fait possible. J'ai encore 5 minutes, madame, oui. Pas plus. Voilà. Je vous promets, vous allez voir ça, j'ai terminé. Oh, non, c'est pas ça. Un vieux professeur aux prises avec la technique, vous savez. Voilà. Alors que va-t-il se passer? C'est ma conclusion, j'y arrive pile. Big Brother, ça vous dit rien, c'est dans Orwell 1982. Big Brother, voici, il y a un grand frère et qui vous regarde sans arrêt et vous ne pouvez rien faire. Or, Big Brother, il existe. C'est les États-Unis en Égypte. Si les Égyptiens ne marchent pas droit, ils vont avoir de gros ennuis. Or, le Big Brother en question, ben, il va se multiplier avec des grands chefs qui seront la Chine, les États-Unis et la Russie. Et ces trois-là, qui auront l'eau, la terre, sont capables d'embêter beaucoup de monde à terme. Mainmise des pays céréaliers sur les pays pauvres qui ne peuvent pas payer leur blé et qui donc seront colonisés. Il y a eu un colonialisme européen du 19e siècle, il y aura un colonialisme mondial du 21e siècle qui renverse sa fin à partir des grands pays céréaliers. Ça, je vous le garantis, c'est déjà en train de se faire. Ou alors, il y aura ce que j'appelle les gouvernances. Et là, j'ai mis la référence française. Oh, que les Français sont beaux, qu'ils sont meilleurs que les autres, ils sont absolument parfaits. Nous avons inventé, tout simplement, les agences de bassin, où tous les gens qui ont accès sur un bassin ont leur mot à dire, pas l'administration uniquement, mais les usagers et les riverains. Ça marche également dans un pays comme le Canada, et on peut se demander si, à l'échelle internationale, ça ne serait pas l'idéal de réunir tout le monde autour de la question de la gestion de l'eau sur les grands fleuves. Ça a l'air d'être difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de droit international de l'eau, et c'est là-dessus que je termine. Il y a deux lois qui valent. L'une dit le premier usager est prioritaire, donc l'Égypte a tous les droits et l'Éthiopie n'en a aucun. Et la deuxième loi, tout aussi valable, dit l'eau doit être partagée équitablement en tous les riverains. Et l'Éthiopie a raison contre l'Égypte. Alors pour régler ça, ben, il n'y a que la force. Donc l'avenir, eh ben, il n'est pas aussi radieux que vous auriez pu penser, le croire, au début de ça, si je ne vous ai pas endormi. Je vous remercie de votre attention. Si vous n'êtes pas content...